Alors, en entrant la dernière fois dans la troisième partie de Par-delà bien et mal, Das religiöse Wesen, la nature, l'essence religieuse, nous avions abordé la question de la religion telle que Nietzsche la voit, et en particulier du christianisme. Évidemment, tous les textes importants ne sont pas dans cette troisième partie, notamment les célèbres textes sur la mort de Dieu dans Lié Savoir, mais j'y ferai peut-être allusion tout à l'heure. Et nous nous étions arrêtés en particulier sur l'aphorisme 59, et nous n'avions pas, je crois, terminé la lecture de ce texte. Je rappelle donc quelques éléments avant de vous donner la parole si vous souhaitez poser quelques questions, et puis nous poursuivrons ensuite ce qui est dit des homines religiosi, de la hiérarchie artiste, et cela nous donnera l'occasion, particulièrement à partir du paragraphe 46, de nous arrêter plus particulièrement sur ce que Nietzsche dit du christianisme, qui est une pièce essentielle, évidemment, de sa réflexion et de son œuvre. L'aphorisme 59 peut surprendre, puisqu'il commence par un éloge de la superficialité. Celui qui a jeté un regard pénétrant sur les choses devine sans peine quelle sagesse il y a dans la superficialité des humains. Un éloge de la superficialité qui est considéré comme une sagesse. Il y a une sagesse, et Nietzsche a le sens des mots. La sagesse, c'est la grande tradition grecque, religieuse, du comportement correct, et du comportement juste contre la folie, selon les expressions bibliques. Alors on est évidemment surpris parce que un éloge de la superficialité n'est pas beaucoup dans la tradition, ni religieuse, ni philosophique. On pourrait dire que ce paragraphe, comme d'ailleurs un peu toute la troisième partie, est hanté par trois fantômes philosophiques, si je puis dire. Et il y a évidemment, sans qu'il soit explicitement cité, une référence à Platon. Si l'on résume Platon si on ramène Platon au mythe de la caverne, on s'aperçoit qu'en effet, les hommes qui sont enchaînés au fond de la caverne restent dans la superficialité, puisqu'ils ne se rendent pas compte que les images qu'ils voient sur l'écran, sur le mur, ne sont pas le réel. Et ils prennent donc des images, c'est-à-dire des fantasmes, des illusions, pour la réalité. Et Platon demande par conséquent à son disciple de se défaire de ses chaînes et précisément de ne pas rester dans la superficialité. Le deuxième fantôme, nous l'avons déjà rencontré l'avant-dernière fois, c'est évidemment Schopenhauer, puisque Schopenhauer demande à celui qui le suit de s'évader du monde de la représentation, du monde comme volonté, comme représentation. Le monde de la représentation, c'est le monde de l'illusion, monde auquel nous enchaînent nos passions, le désir de vivre, le souci de la richesse, et je l'avais signalé en particulier, la sexualité. Donc il faut se mettre dans une position d'ascèse et de retrait par rapport à ce monde de la représentation pour découvrir en soi-même la volonté de vivre qui ne veut rien de particulier. Mais je crois que le troisième fantôme qui hante ce texte, et d'ailleurs toute la troisième partie, je l'avais signé la dernière fois, c'est évidemment Pascal. Comme vous savez, Pascal restera tout au long de l'œuvre nietzschéenne une référence majeure, à la fois d'admiration et on peut dire de détestation. De Pascal, il suffit de se souvenir ce qu'il dit du divertissement. Le libertin, c'est celui qui s'occupe de mille et une façons pour ne pas poser les questions essentielles. Donc c'est celui qui reste dans la superficialité, qui joue avec les succès mondains, la gloire temporelle, etc. Et évidemment, ce que Pascal demande aux vrais chrétiens, c'est de briser par rapport à ce divertissement pour se mettre devant les problèmes réels de l'existence, c'est-à-dire le salut. Bon, alors on pourrait dire que ce texte, s'il y en a un qui pourrait valoir comme texte anti-métaphysique, on pourrait dire que c'est bien celui-là, mine de rien, puisque on pourrait dire quand même que la plupart de ces auteurs, en tout cas Platon et Schopenhauer et Pascal, se refuseraient à dire que la superficialité fait partie de la sagesse. Alors, j'avais aussi indiqué la dernière fois, très rapidement, pourquoi, aux yeux de Nietzsche, au fond, la profondeur est dangereuse. La profondeur est dangereuse, vous vous souvenez de cette petite parabole de la fourmi dans la forêt, de la mouche qui se croit le centre du monde, dont texte un peu de jeunesse, mais qui, sous forme de parabole, dénonce finalement l'orgueil humain qui se croit ou bien la fin de l'histoire, le point oméga, n'est-ce pas? On pourrait dire un peu à la Teilhard, que bien évidemment Nietzsche ne connaissait pas, il se croit la flèche de l'évolution, tout a été fait pour lui, alors qu'en réalité, eh bien, il est une transition, un instant passager, et lorsque cette glorieuse humanité aura disparu, bah, il ne se sera strictement rien passé devant le silence infini des sphères, pour à nouveau faire allusion à Pascal. Et puis alors, la deuxième raison, mais qui est liée à la première, c'est, nous l'avons vu dans plusieurs textes, c'est qu'aux yeux de Nietzsche, la vie est exploitation, elle est chaos. Elle est désordre, elle n'est pas unité. Il n'y a pas un sens du monde sur lequel nous pourrions nous appuyer, il n'y a que chaos. Et par conséquent, là encore, rêver d'une perfection de soi, rêver d'une fin du monde, rêver d'une providence ou même d'un sens historique qui nous conduirait à un état achevé, évidemment, est aux yeux de Nietzsche une pure et simple illusion. Donc de ce point de vue-là, et on pourrait ajouter évidemment bien d'autres textes, la vérité est terrible à voir. La vérité est terrible à voir. Alors il faut faire bien attention, Nietzsche ne dit pas il faut évacuer la vérité. Il n'y a rien de tel que la vérité. Ce qu'il dit, c'est que la vérité, à la fois nous ne pouvons pas ne pas la chercher, puisque nous nous interrogeons sur nous-mêmes, mais quand nous la découvrons, elle est affreuse. D'où le thème aussi des voiles, il vaut mieux les masquer. Et à nouveau, l'illusion. Parce que Chaé Chaudet craint l'eau froide, n'est-ce pas? Ils le disent. Parce que nous avons senti que le monde était non-sens, en son fond, donc nous nous replions sur l'illusion et sur l'apparence. Et il y a une sagesse à le faire, parce qu'on se brûle les doigts à aller au fond des choses, n'est-ce pas? Bon, la souffrance, la maladie nous met devant le non-sens du monde et on n'aime pas tellement ça. Alors on pourrait dire à nouveau que, là encore, c'est un trait anti-métaphysique. J'aime pas trop donner des catégories comme celle-ci qui sont finalement elles-mêmes illusoires, mais enfin, un des grands principes de la métaphysique, c'est que verum unum bonum convertuntur. Le vrai, le bien et l'un se convertissent, se passent l'un dans l'autre. Bon, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de unum, puisque le monde est chaos, et ce qu'il faut accepter, c'est la diversité, par exemple la volonté. La volonté n'est pas une, elle est une construction à partir d'affects divers. Le bonum, nous avons vu dans les premiers paragraphes, il n'y a pas que le bien. Le bien ne peut finalement s'affirmer qu'à partir de son contraire, et il est toujours lié à son contraire. Et le verum n'est pas cette sauge, il n'y a pas de splendeur de la vérité. Pour parler comme un pontife jadis glorieusement régnant, il n'y a pas de splendeur de la vérité. La vérité est au contraire tout à fait redoutable. Bon, alors par ces traits, on pourrait dire à nouveau que Nietzsche s'inscrit en contradiction par rapport à une très longue tradition métaphysique et on pourrait dire évidemment théologique. Alors j'ajoute un dernier point et je reviens au texte, c'est que Nietzsche va situer dans cette sagesse de la superficialité ce qu'il appelle les homines religiosi, les hommes religieux. Alors ce qui est très curieux, mais avec Nietzsche il ne faut pas avoir peur des surprises, c'est qu'il met parmi ces homines religiosi les artistes mêmes et évidemment les religieux proprement dit. Alors il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas les assimiler tous les uns aux autres, ils sont tous des homines religiosi, ils sont tous dans la sagesse de la superficialité, mais il y a plusieurs types d'attitudes à l'égard de cette superficialité, et donc il y a plusieurs types de sagesse. Si bien que nous comprenons que les homines religiosi, et je crois que c'est intéressant de le noter par rapport à la position, disons, religieuse sur les religions de Nietzsche, les homines religiosi ne sont ni les seuls ni à part. Une espèce de catégorie bizarre qu'on pourrait un beau jour supprimer parce que on voit plus très bien ce que signifie la religion. Non, ils sont sur une hiérarchie, sur une échelle de valeurs, au même titre que les philosophes et les artistes. Donc ils sont dans une grande tradition de sagesse, qu'évidemment Nietzsche va critiquer, mais ils ne sont pas les seuls. Et la croyance, et nous allons revenir là-dessus, la croyance est une certaine façon de se tenir à la surface avec obstination. Donc, c'est une façon de ne pas lâcher prise par peur de tomber dans le vide, en gros, par peur du chaos. La croyance, toute forme de croyance, est une sorte de crispation sur la surface et qui, en réalité, appauvrit la surface. Nous allons revenir là-dessus. Une crispation, mais qui appauvrit la surface. Alors, vous voyez tout de suite, j'avance un peu à grands pas, mais pour montrer l'issue de la chose, c'est que la véritable sagesse, celle qui se tiendrait au plus haut, serait de savoir jouer avec l'apparence, non pas de se crisper sur l'apparence et l'illusion, non pas de vouloir l'affaiblir, la rendre finalement légère, mais savoir jouer avec l'apparence sans y tenir. À nouveau, l'exemple de la danse, savoir danser au-dessus de l'abîme. Alors, le croyant, quelle que soit sa nature, c'est celui qui a peur de la danse, et qui donc s'accroche et se refuse à danser au-dessus de l'abîme, parce qu'effectivement, il a peur de l'abîme. Et personne, évidemment, n'a la garantie, même pas l'artiste, le véritable superficiel, de ne pas tomber dans l'abîme. Voilà, en gros, ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, les homilies religieuses sont au plus haut rang, si on veut, et ils sont caractérisés par une falsification extrême de la vie, en délestant l'image de ce qu'elle a de problématique et de tragique, en simplifiant la vie, en ne voulant pas voir justement que la vie est aussi exploitation, méchanceté, haine, etc. Donc en réduisant l'image à ce qui est supportable, en éliminant du sensible tout ce qui nous déplaît. Bon, je fais remarquer, avant de vous laisser la parole pour des questions éventuelles, que tel est l'axe, me semble-t-il, central de la critique de Nietzsche à l'égard de toute forme de religion, et disons de toute forme de croyance. Il s'en prend à la volonté de croire à tout prix. Il ne s'en prend pas au contenu de la croyance. Là encore, il y a une originalité. C'est que jamais, autant que je vois, bon, on peut toujours trouver des textes qui iraient en sens contraire, mais ils sont rares, sauf peut-être dans Humain trop humain, c'est-à-dire dans les écrits de jeunesse. Il ne s'en prend jamais à des croyances, à des contenus dogmatiques. Par exemple, il ne dit pas la résurrection est complètement ridicule, qu'est-ce que c'est cette histoire, une vierge qui accouche d'un enfant, tout ça, ça ne tient pas la route. Bon, non, je crois qu'on ne trouve jamais ça. C'est pas du Renan. Et Dieu sait si Renan est pour lui une cible facile. Un Renan, c'est le type à abattre, parce que, à la limite, c'est un imbécile, il n'a pas vu les vrais problèmes. Donc, il ne s'en prend pas au dogme, il ne s'en prend pas aux sources historiques de la religion, comme telles. Il ne dit pas, les documents sont ce Moïse, on ne sait pas ce qu'on dirait aujourd'hui. Moïse, on ne sait pas s'il existait, Abraham, c'est quoi, c'est une invention. Non, on ne trouve jamais ça, ou bien pas non plus l'idée que encore que là, il faudrait voir de plus près, que comme tel, l'Évangile proposerait une morale impraticable. Je vais apporter tout à l'heure une nuance là-dessus. Ou que la religion serait quelque chose de dépassé. On a vu que, nous allons le voir dans les textes, qu'effectivement, il y a des choses que les hommes modernes ne peuvent plus croire dans le christianisme, mais ce qu'il appelle l'attitude religieuse, l'instinct religieux, reste de toute façon une marque de l'être humain. L'individu humain ne peut pas ne pas croire. Tout le problème est de savoir, et voilà la pointe, quel type de croyance, quel rapport il a avec cette croyance. Est-ce qu'il a une croyance qui le ferme sur lui-même, qui le fixe, qui l'étouffe finalement dans une volonté de vérité à tout prix? Ou est-ce que cette croyance lui permet de danser, d'évoluer, de bouger, etc. Bon, je m'arrête peut-être là pour des questions avant d'aller dans la suite. Donc je crois que c'est un point intéressant parce que c'est toute croyance qui est mise en cause. On pourrait dire, et il le dit d'ailleurs dans Le Gai Savoir, Même la croyance de l'athée, le scientisme, dit-il, alors ça c'est dans la généalogie de la morale, la troisième partie, le scientisme, l'apologie de la science, c'est la dernière croyance moderne. C'est le dernier écho religieux, le scientiste, qui croit que, parce qu'on a déposé un robot sur une planète, on va découvrir le sens de la vie. N'est-ce pas que, non plus. Ça c'est. Bon. Pour ne pas faire allusion à l'actualité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'envoyer des robots à je ne sais pas combien, des milliers de kilomètres. Mais bon, combien 500 000 kilomètres, oui, c'est pas magnifique, mais bon, si vous découvrez demain matin que vous avez le cancer, vous bien vous avancer. Bon, soyons pas tournés chiens. Voilà, si vous avez des questions sur tout ça,
oui. Oui,
à
propos de la superficialité, est-ce que Nietzsche fait différence entre être superficiel sans savoir que l'on est superficiel et être superficiel en sachant qu'on est superficiel? Parce qu'à ce moment-là, on ne l'est plus vraiment.
Ah, oui, oui, non, bien sûr qu'il faut savoir. Ben, vous savez, c'est quand même un gai savoir. Hein, Nietzsche, c'est pas simplement, c'est pas du tout l'irrationalité. Non, il faut savoir en effet qu'il faut pas avoir peur. D'abord, volonté de puissance, c'est ne pas avoir peur de l'abîme, mais savoir qu'il y a un abîme. Bien sûr qu'il faut savoir qu'il y a un abîme. On n'aime pas le savoir. Et savoir que la véritable sagesse, c'est de danser malgré tout. Voilà, gai savoir, c'est ça. C'est vous dites oui au monde en sachant ce qu'il a aussi d'horrible. Mais si vous ne le savez pas, évidemment, vous êtes un naïf. On va le voir un peu à propos de Jésus, si vous voulez. Il va reprendre l'image de Dostoïevski, qu'il admirait beaucoup, enfin, il ne connaissait pas très bien. L'idiot, c'est l'idiot, hein, qui est très gentil, mais qui n'a rien compris à rien, en gros. Je sais pas, oui. Je crois, non, et bien sûr qu'il faut savoir, ça, c'est... Ben, je dirais, il ne serait pas philosophe s'il mettait en avant la connaissance. Mais quelle connaissance, voilà. Oui.
Oui, je voulais revenir sur la question de l'histoire.
La fin de l'histoire.
Non, la question de l'histoire chez Nietzsche.
Ah oui.
Parce que je pense qu'il y a un certain lien aussi avec la science moderne. Et je pense que, bon, ce que je comprends, il y a un rejet de l'histoire scientifique, académique, déjà des considérations intempestives et qui accompagne, disons, le parcours. Et c'est disons, le rejet de disons, c'est pas une piste qu'il parcourt comme une critique, disons, à la façon des modernistes ou...
Oui. Ben, l'histoire... Bon, on pourrait, si tu veux, regarder la deuxième considération intempestive, hein, tu viens de faire allusion, qui est une très belle réflexion sur l'histoire monumentale, l'histoire, etc. Mais l'histoire compte pour Nietzsche, par exemple, c'est un des deux aspects de ce qu'il appelle la généalogie. La généalogie, on pourrait dire, du christianisme ou de la volonté, c'est d'une part, en effet, de regarder les raisons psychologiques pour lesquelles on tient à, et puis l'historique. Nous allons le voir tout à l'heure à propos de Jésus et de saint Paul, on ne peut pas ignorer l'historicité des choses. Pas plus que pour l'Europe. L'Europe, elle n'est pas tombée du ciel, on l'a déjà vu, n'est-ce pas, plusieurs fois. Donc l'histoire compte en tant qu'elle nous renseigne sur nous-mêmes et sur le présent. Alors, elle est mauvaise dans la mesure où elle obture. Ça, c'est ce qu'il appelle l'histoire monumentale. C'est à celui qui croit tout savoir sur tout. Ben, ça vous étouffe. On n'a pas besoin de tout savoir sur tout. On a besoin de savoir ce qui nous est nécessaire. On trouve à nouveau la volonté de puissance pour vivre aujourd'hui. Alors, l'histoire est nécessaire. Ça, Nietzsche ne le dit pas, mais pas cette histoire des bibliothèques qui vous étouffe sous la poussière des connaissances, quoi. Alors, il n'y a pas à proprement parler une pensée de l'histoire chez lui, mais il néglige pas l'histoire, je crois pas du tout, non, non, non. Non, parce que nous sommes quand même des héritiers, nous l'avons vu dans les textes, hein, l'Européen est un héritier. N'importe qui, nous sommes tous des héritiers. Surtout par certains côtés, une pensée conservatrice, si on veut. On ne peut pas couper nos liens avec, évidemment pour lui, les Grecs, les tragiques, mais la Bible, même s'il la repousse ou la critique, elle fait partie de notre... de ce que nous sommes. Oui.
À propos de la foi, quel regard Nietzsche porte-t-il sur la foi? Parce que là, selon vous parler, on a l'impression que c'est... effectivement, il cherche à dénoncer la crédulité de la foi naïve. Mais sur la foi en elle-même, est-ce qu'il est capable de poser un regard qui soit... positif, est-ce que le martyr pour lui et enfin, il y a un sujet au moins qu'il étudie ou en tout cas qu'il cherche à critiquer ou...
Non, sur le martyr, il n'aime pas trop. Parce qu'il dit, c'est pas parce que vous avez donné votre sang que vous êtes dans la vérité. Ça ne signifie rien. On peut jouer à, on pourrait dire, regardez les djihadistes, hein, on peut dire c'est admirable, ils se font trouver la peau. Bon, ben, et alors, c'est des fous. Donc, ça sera un peu la position de Nietzsche. Hein. Ça, plusieurs fois, en citant Pascal d'ailleurs, il s'oppose à cette idée de martyr. On en fait ce qu'on veut, mais c'est pas totalement idiot, je crois. Alors, la fois, je l'avais dit en commençant l'autre jour un exposé, le problème, c'est qu'en allemand, il n'y a qu'un mot, il y a Glauben. Et il n'y a pas la distinction que nous faisons en français entre la croyance et la foi. Alors, on s'en tire volontiers en disant, oui, mais ça, c'est de la croyance, la foi est pure, etc. Ça, je crois que c'est pas nietzschéen, parce que, à l'intérieur même de la foi, il peut y avoir des ambiguïtés. Donc, je trouve un peu facile de dire, ah oui, mais la croyance est naïve, etc., vous croyez aux sorcières, tout ça, c'est ridicule, mais la foi, c'est magnifique. Non, je crois, d'un point de vue de Nietzsche, la foi elle-même peut être ambiguë, et je trouve que c'est une très grande sagesse, parce que quand même, la plupart des spirituels nous ont mis en garde contre les travestissements de la foi. On croit qu'on croit, et en réalité, on croit en soi-même, ou on a peur, ou je sais pas quoi. C'est quand même aussi la grande tradition spirituelle que d'être en garde contre les travestissements de la foi. Donc, ça suppose une vigilance permanente, hein. Donc, voilà. Mais de fait, il ne fait pas cette distinction. Parce que je crois que du point de vue de la langue, il ne peut pas la faire. Alors, on reviendra sur le thème de la foi, si vous voulez, tout à l'heure, en parlant un petit peu de Jésus, qui, pour lui, représente, un exemple, un modèle de la foi simple, ou dire oui au monde. Oui.
Lui, sa croyance à lui, alors c'est quoi? C'est l'art?
Sa croyance?
À lui?
À lui? Ben, c'est la croyance au monde, qu'il est magnifique de dire oui à ce qui est, tel que c'est, et à la profondeur des choses. Parce que, vous voyez, je crois ce qu'il faut quand même voir sans dévoiler toutes les batteries. Je crois que c'est un homme qui est profondément anti-chrétien, mais pas nécessairement anti-religieux. Il y a chez lui une sorte de mystique, on voit bien, là, son appel au dieu, D-I-E-U-X, à Dionysos. Il y a, parce qu'on peut dire le chaos, mais le chaos, c'est aussi l'expression d'un abîme inaccessible à l'homme, devant lequel l'homme doit s'incliner. Donc il y a pas que l'homme. Il y a l'homme devant un abîme qu'il ne peut jamais éponger, si je puis dire. Et donc, il y a bien quelque chose qui s'appelle l'instinct religieux, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis le centre du monde, il y a autre chose que moi. Mais c'est une divinité, évidemment, impersonnelle, une divinité qui n'est pas providentielle. Encore que le dernier paragraphe de part de la Bien Mal, c'est un Dieu qui vient nous visiter. Mais qui vient nous visiter par des petites touches. Si vous voulez, on reviendra sur ce texte, j'espère qu'on aura le temps de le voir. Un dieu visiteur, mais par petites touches. Il ne vient pas comme ça s'incarner, s'imposer. C'est un dieu allusif. Je ne saurais croire, Zarathustra ne croira qu'un dieu qui saurait danser. Pour la danse, c'est pas de s'étaler par terre, hein, c'est de c'est de sauter, c'est de... Voilà, il me semble que c'est quand même plutôt... Donc, c'est pas l'athée bête et méchant. C'est une espèce d'athéisme religieux, j'ai à la limite. Enfin, nous aurons à le confirmer, mais je crois qu'on peut avoir ça en tête quand même. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation, mais je crois quand même qu'elle a de solides appuis dans les textes eux-mêmes. Et dans la vie même de Nietzsche, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui, jusqu'au bout, je vais citer tout à l'heure l'Antichrist, qui est un texte posthume, il discute avec le christianisme. Si vous lisez Marx, dans la Genèse, dit, bon, on en finit avec la religion, tout ça c'est de l'aliénation, c'est de la vaseline, etc. Terminé, on passe aux choses sérieuses, on fait de l'économie. Et il ne parle plus de religion. Parce que c'est un problème enterré. Chez Nietzsche, c'est exactement le contraire. Jusqu'à la fin, alors ça veut dire quoi, ça? Il a toujours besoin de s'expliquer avec Dionysos et Jésus-Christ, voilà, le grand texte posthume, Dionysos ou Jésus-Christ. Voilà le dilemme, dit-il, c'est le dilemme. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Oui.
Sans imperfection. perfection sans erreur, il y a pas là, enfin, là on se baptiser sans imperfection.
La perfection.
Non, là c'est l'erreur.
Là, pardon, j'ai pas.
Là, c'est l'erreur pour moi.
Oui.
Enfin, sans erreur, sans imperfection, il peut y avoir là. Et donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il prenait une forme de croyance en l'imperfection, enfin, qu'il prenait l'importance de l'imperfection aussi. Au contraire.
Bon, oui, c'est une belle question. Est-ce qu'il dirait qu'il croit il met l'artiste, dans le texte que nous avons, dans les homines religiosi. Donc, dans des gens qui travaillent l'illusion. Oui, alors justement, mais si vous voulez, pour Nietzsche, le véritable artiste, c'est celui qui, tout en travaillant l'illusion, entretient en nous la volonté de vivre, le goût de vivre. Voilà, c'est ça le véritable. Mais évidemment, l'artiste, c'est bien qu'il n'a jamais atteint la perfection. Celui qui aurait atteint la perfection ne serait plus un artiste. Par définition, l'artiste sait que le roman qu'il a écrit, le poème qu'il a fait, la peinture qu'il a... C'est encore... Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il recommence. Regardez Picasso sans arrêt, jusqu'à l'obsession. Cézanne refait la Sainte Victoire. Non, on dit, mais vous l'avez fait une fois pour toutes, arrêtez. Hein? Ben non, non, il arrête pas. Alors, il ne la met pas au feu. Heureusement, ça arrive à certains de mettre au feu ou se suicider, Nicolas de Staël et d'autres. Mais bien entendu que c'est les deux côtés. C'est la peinture est une les arts sont une illusion, aux yeux de Nietzsche, certainement. Mais en même temps, c'est une illusion qui nous fait vivre. La religion, c'est aussi une illusion, mais au moins dans le christianisme, elle nous tue. C'est un peu la différence. Elle nous affaiblit, elle nous met du côté de la servitude. On va voir pourquoi. Enfin, on voit déjà. Est-ce que je réponds un peu, enfin, si on peut répondre. Oui, c'est intéressant. Homines religiosi, les philosophes aussi, ils croient qu'ils ont la vérité, mais ils nous racontent des histoires à dormir debout. La grande fresque hegélienne, ça, magnifique. Et après. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, mais on peut porter les questions, hein, je ne veux pas les réduire. Alors, je dirais, voilà, nous avons vu la sagesse de la superficialité, la hiérarchie artiste, et je crois qu'il y a un troisième volet dans ce paragraphe, c'est ce que j'appellerais la racine de l'interprétation religieuse de l'existence. Je veux dire, à peu près au... Dernier tiers, c'est la crainte profonde et soupçonneuse de tomber dans un pessimisme incurable qui a contraint des millénaires entiers à s'enfermer dans cette interprétation religieuse de l'existence. La crainte de cet instinct qui pressent qu'il pourrait posséder trop tôt la vérité, bon, la vérité est terrible, hein, avant que l'homme soit devenu assez fort, assez dur, assez artiste. Ainsi considéré, la piété, la vie en Dieu apparaîtrait comme le dernier, le plus subtil produit de la peur de la vérité. Vous voyez, peur de la vérité, de cette vérité atroce, quoi, que le monde est exploitation. C'est pas que que les religions disent des mensonges, c'est qu'on a peur de voir cette vérité horrible. Et aux yeux de Nietzsche, le véritable philosophe, c'est celui qui n'a pas peur de voir qu'il est qu'une mouche dans l'univers. Voilà. Ça, la peur de la vérité. Dévotion ivresse d'artiste en présence la plus systématique de toutes les falsifications, volonté d'inverser le vrai. Bon, alors, la première, je fais deux ou trois remarques, la peur devant le pessimisme. Là encore, il faut noter que Nietzsche ne met pas la religion du côté de la peur primitive, de l'angoisse primitive, comme certains nombre d'autres qui disent, évidemment, dans des sociétés primitives, lorsque l'homme n'avait pas le gaz et l'électricité, n'est-ce pas, il ne pouvait qu'avoir peur des ténèbres, donc il était religieux. Mais à partir du moment où vous avez le gaz et l'électricité dans tous les appartements, dont je plaisante évidemment en disant ça, vous voyez que le progrès de l'esprit, il va sortir de la peur et donc il va rentrer dans le monde des Lumières. Non, c'est la peur actuelle qui est inviscérée en tout homme. C'est une peur ancestrale, elle a toujours eu lieu, elle n'en continue pas moins aujourd'hui, parce que si l'homme est un peu lucide sur lui-même, il s'aperçoit que la réalité est mystérieuse, sans réponse à ses questions, non adaptée, que le monde n'est pas nécessairement fait pour lui, que tout ne marche pas tout dans l'huile, etc., et que le monde n'est pas non plus assimilable à un sens. Il n'y a pas, ce qu'il appelle dans d'autres textes, un ordre moral du monde un ordre providentiel dans lequel chacun pourrait trouver sa place. Là encore, il y a une critique peut-être du cosmos des Grecs, où chacun trouve sa place dans un univers ordonné. Il n'y a pas d'univers ordonné, il n'y a pas de providence. Mais c'est cela que l'homme n'accepte pas de voir tel qu'il est dans l'univers. Je ne reviens pas sur ce que j'ai vu la dernière fois. J'ai dit la dernière fois. Alors, on pourrait dire que dans ce contexte, ce qu'il appelle l'interprétation religieuse est une réponse à la peur, à cette peur abyssale. Alors, je note trois petites choses ici. D'abord, il s'agit d'une interprétation religieuse. Donc, on retrouve ce que la question posée tout à l'heure. Interpréter, ça veut dire comprendre quand même. Ça veut dire avoir une intelligence de la chose. L'attitude religieuse est donc une interprétation du Dasein, pour parler comme Heidegger et faire un peu savant. Donc, c'est une lecture qui a sa rationalité. Nietzsche ne dit pas la religion chrétienne en particulier, c'est une pure et simple stupidité. De telle sorte que, en étant un peu plus malin, plus intelligent, en allant dans les grandes écoles, en fréquentant, etc., les bibliothèques, vous allez comprendre. Non, c'est une, il y a quelque chose d'intelligent qui d'ailleurs, justement, en fait toute la force d'une certaine façon. Donc ce n'est pas ni une pure folie, et ni un pur égarement. Cette interprétation est forte, c'est ma deuxième remarque, parce que elle obture le non-sens du monde en donnant un sens. Elle obture le non-sens du monde en donnant un sens, en justifiant l'existence, qui, comme telle, n'a pas de justification. Et on trouverait Schopenhauer. L'existence humaine n'a pas de justification, sauf celle qu'elle se donne. Ça, c'est Nietzsche. Mais l'interprétation religieuse du Dasein, disons du monde, donne un sens. Et on pourrait dire, peu importe le sens, pourvu qu'il y ait un sens. Plutôt n'importe quel sens que pas de sens du tout, c'est une formule très célèbre de la fin de la généalogie de la morale. Ça va très loin. Plutôt n'importe quel sens que pas de sens du tout. Ben, on trouverait le djihad. Ma vie n'a aucun sens, mais après tout, elle aime faire trouver la peau pour une cause, défendre l'islam, etc. Même si au bout du fusil il y a la mort, mieux vaut ça que rien. Ben, n'importe quel sens. Alors, vous voyez tout de suite, inutile de discuter. Inutile de discuter, de dire, mais c'est idiot, vous allez vous faire trouver la peau. Mais non, il y a un désir de sens, on pourrait dire, voilà, insatiable. Plutôt n'importe quel sens que pas de sens du tout. Alors, faisons bien attention que cette réponse, entre guillemets, elle vaut à tous les degrés de la hiérarchie. Des homines religiosi. N'est-ce pas, on pourrait ouvrir la critique de la philosophie pour Nietzsche, et la philosophie est une façon de donner sens à ce qui n'en a pas. On vous fait des discours et on vous amuse en faisant des discours, pour que vous ne voyez pas le tragique de votre vie. Mais l'artiste, c'est la même chose, vous vous plaisez à écouter une nocturne de Chopin, etc., ou un opéra de Wagner, pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à autre chose. Mais voilà, c'est, vous voyez, ça vous permet de vivre. Et si ça vous permet de vivre bien, ben tant mieux. Mais c'est quand même une illusion. Alors ça vaut pour tous les degrés de l'illusion et des homines religiosi, je veux dire. Et donc ça vaut aussi pour la science elle-même. Je lis le paragraphe 28 de la troisième dissertation de la généalogie de la morale. Hors de l'idéal ascétique, en gros c'est ce que je viens de dire, mais je vais revenir. L'homme, l'animal homme, n'a eu jusqu'à présent aucun sens. Son existence sur la terre n'avait aucun but. Pourquoi l'homme en général était une question sans réponse. Manquait la volonté pour l'homme et pour la terre. Derrière toute grande destinée humaine retentissait comme refrain un en vain encore plus grand. L'idéal ascétique signifie précisément cela, que quelque chose manquait, qu'une immense lacune enveloppait l'homme. Il ne savait pas se justifier lui-même, s'expliquer, s'affirmer. Il souffrait du problème de son sens. Et justement, la religion permet de porter cette souffrance, voire de l'éteindre. Alors, ça pose une question tout à fait intéressante aussi, c'est que, est-ce qu'on peut jamais se passer d'une interprétation de l'existence? Alors, aux yeux de Nietzsche, bien entendu que non. Tout le problème va être quel est le type de réponse est-ce que c'est un sens qui comble et qui oublie le non-sens, ou est-ce que c'est un dire oui, c'est-à-dire une croyance qui accepte que ce oui soit sur l'abîme, donc toujours précaire. Donc on n'échappe pas à la croisance, je reviendrai sur des textes tout à l'heure. Alors la troisième remarque, c'est que la croyance, on y tient au point de ne pas vouloir en démordre. C'est une volonté de se fixer et de fixer ce qu'il appelle la volonté de vérité à tout prix, à n'importe quel prix. C'est une sorte d'obstination qui caractérise la volonté de croyance, surtout religieuse. Et on pourrait dire, c'est une obstination contre quoi aucun argument ne peut être avancé. Je dirais volontiers que c'est un peu ce que l'on va appeler plus tard l'idéologie. L'idéologie. Vous dites à un marxiste convaincu qui pense que l'URSS était le paradis sur Terre. Vous lui dites, mais écoutez, sans doute veulent-ils la justice, mais il y a quand même des camps de concentration. Il y a la police partout. Il va vous dire, oui, bien sûr, mais c'est temporaire. Ou il va le nier. Parce qu'il veut croire que l'avènement de la justice est là. Alors, s'il faut en passer par les confrontations, bon, à la vie. Mais la plupart du temps, on dit non. Donc voilà, là, c'est ça l'idéal ascétique. L'idéal ascétique, c'est de s'enfermer dans une illusion qui vous permet de porter la vie en éliminant ce qui est contraire à votre croyance, en le tenant pour nul et non avenu. Alors, il définit l'idéal ascétique dans la généalogie de la morale comme l'idéal de la vie qui se dresse contre la vie, de la vie qui tue la vie, dans sa flamboyance, dans ce qu'elle a d'incertain. Alors, cette interprétation est en réalité une peur de la vérité. Alors, je vous renvoie au paragraphe 56 que nous avions déjà lu la dernière fois, où il fait allusion à nouveau à Schopenhauer. La peur de la vérité, encore une fois, n'est pas que le croyant croirait à des choses fausses. Elle est dans la croyance elle-même. Elle est donc la volonté de ne pas voir la profondeur des choses. De ne pas voir, dans le cas du marxiste, que l'avènement de la société sans classe est toujours repoussé et que concrètement... Voilà, concrètement, c'est la mort. Concrètement, c'est la tyrannie policière. Non, on ne veut pas voir ça. Bon, on pourrait dire de même, le croyant croit au royaume de Dieu, mais il ne veut pas voir, ou plutôt ça lui permet de porter sa propre mort. Bon, donc c'est toujours ça de gagner. Mais il ne veut pas voir qu'en fait, il est lui-même mort. Alors, je dirais, nous retrouvons d'ailleurs ici Pascal, hein, parce que Pascal, c'est précisément celui qui a dénoncé dans le divertissement le refus, justement, de la foi, l'on pourrait dire. C'est l'enfermement dans une croyance qui vous tient lieu d'alibi pour ne pas voir l'abîme dans lequel vous êtes. Et Pascal ne cesse de dénoncer dans les pensées l'illusion du libertin, etc., qui se grise de plaisir, de richesse, de tout ce qu'on voudra, pour éviter de voir la mort. C'est toujours la même chose. Alors, une autre remarque encore, c'est que cette interprétation, alors ça c'est évidemment un peu bizarre de voir arriver cette idée, cette interprétation, qui est donc une interprétation contestable, on pourrait dire une illusion, un mensonge nécessaire, cette interprétation où la piété embellit l'homme, ce n'est pas une détresse dont on pourrait se détacher, ce n'est pas de l'obscurantisme, c'est une façon d'embellir l'homme et d'embellir la réalité. Puisqu'on élimine de la réalité ce qui fait peur et ce qui est dangereux. Voilà, on retrouve ici ce que nous avions déjà rencontré quand il accuse le christianisme de présomption. Au paragraphe 62, je ne relis pas ce passage, paragraphe 62, la présomption. C'est-à-dire que si nous sommes appelés en effet à la vie éternelle, alors nous ne sommes pas une mouche dans la forêt. Donc je peux me vanter de... Donc en même temps que la foi, la croyance, nous détourne de prendre la vie à bras-le-corps, y compris dans ce qu'elle a d'horrible, elle nous permet en même temps de nous flatter, c'est-à-dire de croire que nous sommes plus que ce que nous sommes. Donc la croyance permet à l'homme de se croire plus haut qu'il n'est. Elle le met au-dessus du monde, comme supérieur, avec une destinée transcendante, etc. Donc elle embellit, mais en survalorisant. En survalorisant, mais aussi en supprimant sa propre souffrance. Ou en embellissant la souffrance. Si le chrétien souffre, s'il fait des sacrifices, s'il a des épreuves dans sa vie, s'il doit connaître la mort, mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, ce ne sont pas des tuiles qui vous tombent sur la tête, c'est des grâces providentielles. La maladie, Pascal, les beaux textes de Pascal, qui rend grâce à Dieu d'avoir donné la maladie. Et voilà. Donc, ça vous permet de porter, et d'une certaine façon, ça permet de jouir de la souffrance. Bienheureuse maladie que Dieu me donne, parce que ça me permet de montrer ma fidélité, mon courage, etc. Si je n'avais pas de maladie, la vie serait trop facile. Ah, si. Donc c'est au contraire, plus vous avez de tuiles dans votre vie, plus vous allez grandir dans la croyance. Il y a quand même tout petit peu de ça dans le dolorisme pascalien. Donc ça veut dire que on va tenir à la croyance parce que finalement on en jouit. C'est pas seulement un aveuglement idiot tel que si vous allez à l'école vous allez sortir de cet aveuglement. C'est un aveuglement qui vous fait jouir de la vie et même de ce qu'elle a de négatif, à savoir la maladie. Voilà. Alors on pourrait se demander, est-ce que on l'a déjà dit tout à l'heure un peu dans la question, est-ce que Nietzsche exalte le jeu de l'apparence avec elle-même. Alors, je crois qu'il faut bien voir qu'il y a plusieurs types de sagesse. On pourrait dire qu'il y a deux grands types de sagesse, du superficiel. La fausse sagesse qui s'enferme dans la surface par peur du fond. Bon, c'est la croyance particulièrement religieuse. Mais c'est aussi le divertissement du moderne. Alors, je ne vais pas lire le paragraphe 58. Je vous y renvoie parce qu'il est un peu long. Mais c'est quasiment du Pascal modernisé. C'est-à-dire que Nietzsche avance l'idée que si beaucoup de nos contemporains modernes sont indifférents à la religion, sont athées, incroyants, etc., disent tout ça c'est de la blague, mais c'est parce que ce sont ce que Hannah Arendt appellerait des animal laborans. Ce sont des gens qui passent leur temps dans le métro à courir, faire du travail, donc ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Alors il y a une critique de l'homme d'affaires là, absolument extraordinaire dans ce paragraphe. Ils sont pris tellement que jouir de la beauté de la vie, non pas pour moi, je suis tellement occupé par mes affaires que je ne peux pas m'occuper de ça. Donc c'est une nouvelle aliénation, on pourrait dire, qui est assez intéressante et rare dans les textes de Nietzsche, sauf dans certains écrits de jeunesse. Regardez ce paragraphe 58, je le dis simplement au début. A-t-on assez remarqué combien l'oisiveté ou une demi-oisiveté est indispensable à une véritable vie religieuse? Et la suite du texte montre que précisément l'homme moderne fuit l'oisiveté, a peur du vide. Donc regardez les vacances que les gens prennent. On va à nouveau faire des balades, faire des courses, aller au théâtre, à Avignon, etc. Bon, à nouveau on s'occupe. La contemplation, c'est un texte amusant. À nouveau proche de Pascal. Alors, il y a donc une mauvaise sagesse, c'est moi qui parle, celle qui s'enferme en redoublant la surface sur elle-même, et puis il y a l'autre sagesse, qui est celle qui vit de la surface et en elle, avec le sens que, justement, il y a un abîme par rapport auquel il faut toujours se situer, mais sur lequel l'homme n'a pas prise. Voilà, le sens que l'homme a affirmé ce qui est tel que c'est, mais c'est un sens que l'homme se donne à lui-même. Il est créateur de son sens, il ne le trouve pas dans le monde. Voilà, alors ce texte, le paragraphe 59 que nous avons parcouru, vous voyez, je lis simplement la fin de ce paragraphe pour que vous voyez bien que je ne fabule pas trop. Peut-être la piété, c'est finalement la croyance, a-t-elle été jusqu'ici le moyen le plus efficace d'embellir l'homme ? À travers elle, il peut si bien devenir art, surface, harmonie, bonté, qu'on ne souffre plus de son aspect. Ça, c'est quand même à souligner. C'est la... l'attitude religieuse n'est pas simplement une infamie, une sottise, elle embellit la vie. Et est-ce qu'on peut faire autrement que d'embellir la vie? Alors on peut l'embellir en effet par l'illusion, le masque, etc. On peut l'embellir en acceptant de voir les choses telles qu'elles sont et en y adhérant. Alors, on pourrait dire que cette sagesse lumineuse résurgie, elle est duelle, comme je viens de dire. Mais dans le cas de la fausse sagesse, qu'on pourrait appeler la folie pour reprendre le langage biblique, il y a évidemment divers degrés, et on pourrait dire que non seulement il y a divers degrés dans la sagesse, mais il y a divers types de religions. Toutes les religions ne sont pas du même type. Et c'est intéressant de dire un mot, je vais revenir sur le christianisme, parce que ça nous ouvre directement à lui. Il y a divers types de religions selon le type de volonté qui veut la croyance. Alors, il y a la religion des Grecs. On peut regarder le paragraphe 49, sans y insister trop. Ce qui nous étonne, dit-il dans ce paragraphe, ce qui nous étonne dans la religiosité des anciens Grecs, c'est l'inépuisable effusion de reconnaissance qui en émane. Une telle attitude devant la nature et la vie est caractéristique d'une humanité pénétrée de noblesse, de sens de la distinction, hein, donc du côté de la noblesse et non pas de la servitude. Plus tard, lorsque la populace prédomine en Grèce, la crainte envahit la religion, le christianisme se préparait. Donc, la religion des Grecs, c'est la religion de l'exubérance vitale, on aurait Dionysos, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire c'est le tragique grec qui passe par la mort, qui passe par la vengeance, qui passe par la tuerie, par l'exploitation de l'autre. Mais il y a une exubérance, on y va. Hein, Clytemnestre pousse son gamin à tuer son amant sans beaucoup de scrupules. C'est comme ça, il faut qu'il venge son père. Et bon, ou l'inverse, je ne me souviens plus, je dis ça en passant. Alors ça, c'est des religions du oui. Les religions de la Grèce, c'est la religion du oui à la vie, y compris ce que la vie porte avec elle d'écrasement. Et puis, il y a les religions du non, dans lesquelles il classe, nous l'avons déjà vu, le bouddhisme et le christianisme. Alors, sur le bouddhisme, que Nietzsche connaît à travers Schopenhauer, donc il ne connaît pas très bien les textes eux-mêmes, hein, c'est un bouddhisme arrangé, comme d'ailleurs le bouddhisme que nous connaissons aujourd'hui, c'est un bouddhisme à la mode occidentale, cher Boine, nous voyons dans toutes nos revues, là, monsieur Richard, le fils rebelle, c'est un bouddhisme accommodé à la sauce occidentale, qui donc est fait pour nous plaire. Mais dans le cas de Nietzsche, le bouddhisme représente une religion de la volonté fatiguée, qui n'a pas la force de s'affirmer, mais qui est encore poussée au renoncement. Donc une religion du renoncement et de l'ascèse, mais pas de l'ascèse violente à la façon chrétienne, disons à la façon de Schopenhauer, il ne faut pas lutter contre ses passions, il faut d'une certaine façon les neutraliser, les annihiler, ne pas donner prise aux passions. On a la passion de l'argent, de la sexualité, on s'en retire. On ne lutte pas contre, on se désintéresse d'eux. On se replie sur. Alors, ça nous conduit finalement au paragraphe 46, c'est-à-dire à nous arrêter un peu sur le christianisme lui-même, en dire un peu plus sur le christianisme qui reste quand même la référence majeure chez Nietzsche. Bon, je vais lire ce texte, et puis nous arrêterons peut-être. La foi, toujours der Glaube, donc la croyance plutôt que la foi, que réclamait le christianisme primitif et qu'il a assez souvent obtenu au sein d'un monde sceptique de libres esprits méridionaux qui avaient derrière eux et en eux le long conflit séculaire des doctrines philosophiques, sans compter l'éducation et la tolérance que dispensait l'Empire romain, donc qui accueillait tous les dieux, etc., du moins qui n'était pas contradictoire par rapport aux croyances centrales. Une foi, Glaube, de ce genre, n'est pas la foi naïve et hargneuse avec laquelle un Luther, on reviendrait d'un mot sur Luther, qui n'est pas un grand ami de Nietzsche, c'est le moins qu'on puisse dire, avec laquelle un Luther, un Cromwell ou tel autre barbare du Nord se sont accrochés à leur Dieu et au christianisme. Elle s'apparence déjà beaucoup plus à la foi de Pascal, à nouveau, qui ressemble terriblement à un suicide continu de la raison. Ça, c'est le grand reproche fait à Pascal, un homme hyper intelligent, mais qui a sacrifié son intelligence sur l'autel du christianisme. Il faut dire en parenthèse, c'est pas totalement faux. Il a renoncé à la recherche scientifique pour se consacrer à la l'ascèse avec les jansénistes. Il est parti à Port-Royal, au moins pour un temps, vivre solitaire. Donc, je ferme cette parenthèse. Une foi de Pascal qui ressemble terriblement à un suicide continu de la raison, d'une raison acharnée, vous voyez, toujours la même idée, acharnée à survivre et rongeuse comme un ver, tant il est impossible de la tuer d'un seul coup. Et là, on a une première partie. La foi chrétienne est essentiellement un sacrifice. Sacrifice de toute liberté, de toute fierté, de toute connaissance de l'esprit en soi-même. Elle est en même temps asservissement et dépréciation de soi-même, mutilation de soi-même. Il entre de la cruauté et du phénicisme, phénix religieux, phénix qui est l'oiseau qui se renouvelle, dans cette foi qui se propose à une conscience fatiguée, complexe et blasée. Elle implique que la soumission de l'esprit soit inexorablement douloureuse, que tout le passé et les habitudes d'un tel esprit se rebellent contre le comble d'absurdité qui s'offre à lui sous le nom de croyance. Bon, ça fait, me semble-t-il, une deuxième partie. Les modernes, devenus insensibles à toute la terminologie chrétienne, c'est le discours chrétien qui ne passe plus, ne ressentent plus la suprême horreur que comportait pour le goût antique le paradoxe du « Dieu en croix », entre guillemets. Jamais et nulle part on n'avait vu un retournement aussi prodigieux, jamais on n'avait rien conçu d'aussi effroyable et qui soulevait autant de problèmes, cette formule annonçait le renversement de toutes les valeurs antiques. Voilà. Umwerten aller Werten. Ça, c'est une troisième partie. C'est l'Orient, le profond Orient. C'est l'esclave oriental qui se vengeait ainsi de Rome et de sa tolérance aristocratique et frivole, de la romaine catholicité de la foi, petit humour, mais qui a une certaine portée. Parce que la catholicité, c'est pas Luther. Luther, pour Nietzsche, est un fanatique. La catholicité, c'est la romanité. Donc, il y a une certaine tolérance. Je ferme la parenthèse. En tout temps, ce ne fut pas la foi, mais le détachement de la foi, cette insouciance mi-stoïque, mi-souriante, à l'endroit du sérieux de la foi, qui indigna les esclaves et les dressa contre leur maître. Laufléron, indigne. L'esclave veut de l'absolu. Il ne comprend que ce qui est tyrannique, en morale comme ailleurs. Il aime comme il est, profondément, jusqu'à la douleur, jusqu'à la maladie. Ses souffrances nombreuses et cachées se révoltent contre le goût aristocratique qui semble nier la différence. Le scepticisme à l'égard de la souffrance, simple attitude au fond de la morale aristocratique, n'a pas peu contribué à susciter, texte bien célèbre, la dernière grande révolte d'esclaves qui a commencé avec la Révolution française. Le texte n'est pas proclamé dans les temples de la République. Alors, je crois qu'on peut analyser ce texte qui est assez bien construit. Je voudrais simplement indiquer ce qui me paraît intéressant quand même. La structure de ce passage, bon, qui est fait de cinq parties finalement. Alors on a d'abord une allusion au christianisme primitif et à Pascal, bon, qui est mis un peu sur cette même ligne, plus Luther et Cromwell. Bon. Toujours important de noter les genres. Ce christianisme primitif était essentiellement une foi, un Glauben, lié au sacrifice. Sacrifice de soi. Et cela conduit à une insensibilité, Abstufung, des modernes à l'égard de ce discours, parce que cela a produit le retournement Umwerten, le fameux retournement des valeurs, Umwerten des valeurs antiques. Voilà. Ça, c'est le centre, me semble-t-il. Et nous repartons dans une opposition entre Orient et Rome, comme l'opposition entre esclaves et noble, on reviendra là-dessus, mais le mot allemand pour noble, c'est fornem, qui vaut mieux traduire, me semble-t-il, pour éviter les contresens, par distinguer. Parce que noble, pour nous, c'est tout de suite Versailles, c'est la cour de Louis XIV, etc. Donc des gens pourris. Mais pour Nietzsche, c'est formel, l'homme distingué. Voilà, la noblesse des pays. Et alors, cela aboutit au règne de l'esclave. Alors, le règne de l'esclave en politique et en religion. Voilà, on va peut-être s'arrêter là avant de rentrer dans le texte. Alors, nous reprenons, ou plutôt nous commençons la lecture de ce paragraphe 46. J'ai donné ce petit plan qui, en forme de chiasme. Nous voyons que la discussion, donc, sur les religions, s'instaure à l'intérieur d'une opposition fondamentale. Et selon plusieurs symbolisations, il y a une opposition de type historique entre l'Orient et l'Imperium Romanum. Il y a une opposition morale entre la maîtrise et la servitude. On pourrait dire qu'il y a encore une opposition intellectuelle entre la tolérance dont l'Empire romain est crédité et l'intolérance. Et puis, il y a une opposition psychologique dans l'opposition entre une volonté crispée et la volonté insouciante, enfin celle qui sait danser, on pourrait dire la liberté dans la foi, la liberté dans la croyance. Alors, je remarque à nouveau, quitte à enfoncer encore le clou, que dans ce paragraphe, il n'y a rien sur le contenu de la foi, sur la représentation religieuse, et je crois qu'il s'agit là d'un déplacement très typiquement nietzschéen. On est tout à fait loin de, vous vous souvenez de la séance où j'avais indiqué les deux lignes de la postérité kantienne, on est loin de la postérité de Feuerbach ou de Marx, pour lesquels il s'agit que l'homme se réapproprie la vérité religieuse, au lieu de l'attribuer à Dieu, la reprenne sur lui-même. On est tout à fait, je crois, en dehors de cette perspective de réappropriation de l'homme, de son aliénation. C'est tout à fait autre chose. La croyance, c'est une façon d'exprimer celui qui la veut. Donc la grande question, c'est de savoir quel type de volonté on est capable. Bon, remarque faite à nouveau, sur lesquelles je n'insiste pas plus. La deuxième remarque, peut-être plus importante, c'est qu'évidemment dans ce texte, la religion chrétienne est entièrement mise du côté négatif de l'opposition. Donc elle est du côté de l'Orient, elle est du côté de la servitude, elle est du côté de l'intolérance, encore que du côté catholique c'est un peu différent, je viendrai peut-être, et elle est du côté de la volonté crispée. Alors, je crois que comme toujours chez Nietzsche, il faut bien faire attention que derrière les oppositions massives se cachent beaucoup de nuances. La philosophie à coups de marteau n'est pas une déconstruction massive à coups de bulldozer. Derrière ces oppositions fortes, il faut être attentif à beaucoup de subtilités et de nuances. La nuance manque à l'esclave, c'est celui qui veut absolument l'absolu, la vérité pure, et donc il tend toujours à simplifier. Et par conséquent, il ne faut pas non plus prendre l'attitude de l'esclave, et Nietzsche suppose que son lecteur ne la prendra pas, pour aller au-delà de l'opposition et voir ce qu'elle implique. Et ce qu'elle implique, effectivement, de nuances, parce qu'il y a des dégradés subtils, et nous allons le voir particulièrement dans le cas du christianisme. Bon, alors je vais reprendre quelques points. Je dirais d'abord l'opposition des deux types de croyances et les modalités de cette croyance, où j'essaierai surtout de parler du christianisme, c'est-à-dire de l'opposition très tranchée que fait Nietzsche entre le message de Jésus et la théologie paulinienne. Bon, alors d'abord, on peut insister sur cette opposition de deux types de croyances, celle du maître, du noble, de l'aristocrate, de l'homme distingué, voilà, autant d'expressions équivalentes qui sont évidemment lourdes d'ambiguïté, puisque pour nous, noblesse, ça réfère à une histoire, ça réfère à une aristocratie, ça réfère à une domination. Je crois que c'est la noblesse au sens la noblesse d'âme, le sens de sa propre grandeur, de sa propre dignité. Bon, mais je crois qu'il faut bien voir que tous ces termes, nous y reviendrons sans doute, sont équivalents aux yeux de Nietzsche. La noblesse, l'aristocratie, moi je préfère traduire le mot « fornem » par « distinguer », la distinction. L'esclave, c'est la servilité, c'est l'esclavage, c'est la mort de soi-même, etc. Alors, il faut noter qu'il y a une croyance des deux côtés. La croyance n'est pas propre à l'esclave. Il y a il n'y a pas une opposition de croyance et non-croyance. Tout homme est habité par une volonté de croyance. C'est un point absolument capital. C'est-à-dire que tout homme cherche à savoir à quoi s'en tenir. Au fond, la meilleure définition de la croyance chez Nietzsche, c'est ça. C'est savoir à quoi s'en tenir devant le mystère des choses, le trouble, le chaos. Bon, se replier sur des certitudes et tenir à ces certitudes en même temps qu'elles vous tiennent, n'est-ce pas? Les certitudes, on y tient et elles vous tiennent debout. C'est les deux côtés. Alors, cette croyance, la Glaube, elle est présente partout. Elle est présente chez l'esclave, elle est présente, c'est l'homme distingué. L'homme distingué, c'est l'homme qui se distingue de lui-même, c'est-à-dire qui sait la distance avec lui-même et qui l'accepte, mais distinct des autres. Alors, il est très caractéristique de voir que Nietzsche attribue la croyance au noble lui-même, paragraphe 287, donc presque à la fin de... On va lire ce texte, parce qu'il est assez significatif aussi de ce que Nietzsche entend par « Vornehmheit »,« Vornehm ». J'écris... Vornehmheit, donc on traduit ici dans le texte l'aristocratie. Donc, qu'est-ce qui est distingué, 287. Quel sens le mot aristocratique a-t-il encore aujourd'hui? Oustrahi, à quoi se reconnaît l'homme aristocratique, donc disons l'homme distingué, sous le ciel lourd et menaçant de cette naissante suprématie du vulgaire, ce ciel qui rend toute chose opaque comme du plomb. Ce ne sont pas ses actes qui le désignent. Donc la noblesse ne se caractérise pas par des choses qu'on fait. Les actes sont toujours douteux, toujours insondables. On pourrait dire qu'il est bon disciple de Kant à cet égard. Ce ne sont pas non plus nos œuvres, Luther, tradition protestante. On trouve aujourd'hui bien des artistes et des savants dont les œuvres trahissent une profonde aspiration aux valeurs aristocratiques, aux valeurs de distinction, mais c'est précisément cette aspiration qui est radicalement différente des besoins de l'âme aristocratique et qui constitue le signe éloquent et dangereux de l'absence d'une telle âme. Ici, ce ne sont pas les œuvres qui décident et fixent le rang, mais la foi, Glauben, pour reprendre une vieille formule religieuse en un sens nouveau et plus profond. Je ne sais quelle certitude intime inhérente à l'âme aristocratique, distinguée, quelque chose qu'on ne peut chercher, ni trouver, ni peut-être perdre, l'âme aristocratique, donc l'âme distinguée, à le respect de soi. Donc, l'aristocrate, le fornem, l'homme distingué, croit en lui-même. Ça, c'est intéressant. Il croit en lui-même, mais attention, il n'a pas la croyance de l'esclave absolue, absolument certaine de soi. Il ne s'accroche pas à lui-même. Il croit comme Cézanne croit qu'il est capable de peindre la Sainte Victoire. C'est ce qui le fait agir, mais il sait que c'est... Cette croyance n'aboutira jamais à une œuvre. Il n'y aura jamais une sainte victoire qui soit à la hauteur de ce qu'il serait capable de faire. Ça, voilà l'homme distingué. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est capable de... On pourrait dire Picasso qui n'arrête pas de peindre des braves dames avec des yeux de travers, etc. Bon, il croit qu'il est capable... Mais aucune de ces... C'est pour ça que un Picasso serait caractéristique. Il casse sans arrêt son jouet. Bien entendu, il casse sans arrêt son jouet. Il croit en lui-même et pas en ses œuvres. Voilà, c'est-à-dire qu'il est libre à l'égard de lui-même, liberté dans la croyance, il est libre à l'égard de lui-même, Et je dirais, alors, ça n'est pas dans notre texte, mais on pourrait en conclure aussi ceci, qu'il croit assez en lui-même qu'il n'a pas besoin des autres. Le noble fait ce qu'il a à faire, point. Il ne cherche pas, comme l'esclave, le regard de l'autre qui va le rassurer en lui « Oh, comme tu es un artiste magnifique, comme tu es beau, comme tu es bon, comme tu es courageux. » Il s'en fiche du regard des autres. On pourrait dire individualiste, tout ce que vous voudrez, mais il fait ce qu'il a à faire, point. Donc il ne cherche pas la comparaison. L'esclave cherche à capter le regard de l'autre en sa faveur. L'homme noble, qui est animé par la volonté de puissance et de croyance en lui-même, il ne cherche pas le rapport autrui. Il ne cherche pas à juger, ni à être jugé. Picasso fait ce qu'il sait, fait ce qu'il fait. On peut dire c'est dégueulasse, c'est idiot, etc. Il s'en fiche. Bon, je pousse, mais il s'en fiche, parce qu'il croit en lui. Alors, pas juger, que les critiques vont dire tout ça ne tient pas, j'en ferai autant, c'est bon. Ça ne le touche pas. D'une certaine façon, il est imperméable à la critique de l'autre. Ce qui, par parenthèse, va montrer la faiblesse aussi de l'aristocrate. Parce que c'est très beau de dire je me fiche du jugement d'autrui, mais on voit bien qu'il y a un danger aussi. Bon, mais je laisse de côté le danger pour ne retenir simplement l'idée qu'il y a une foi dans le respect de soi, c'est-à-dire dans le sens de sa dignité chez le noble. Alors, on pourrait dire encore que la volonté de croyance, je reviens au texte 58, la volonté de croyance, c'est aussi, peut se définir, alors ça, c'est, on place du côté de l'esclave, du serviteur, du peuple, comme dit Nietzsche quelquefois, de la populace, elle se définit comme celle qui a besoin pour exister d'être commandée. Nous avions déjà vu ça dans l'aphorisme 21, n'est-ce pas, la volonté, il y a l'affect des commandos. La volonté noble est celle qui est capable de se commander. Elle se donne à elle-même des fins. L'esclave a besoin d'une fin qui lui soit attribuée de l'extérieur. Par exemple, le militant communiste, je pense malheureux, mais parce qu'il n'existe à peu près plus, donc ça ne fait de mal à personne, c'est celui qui est commandé par les consignes du Parti communiste. Il a la volonté du Parti communiste. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Parti communiste qui vit en moi. Vous voyez l'allusion à Saint-Paul. Ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis un pauvre type. Mais il y en a un autre plus grand qui veut en moi. Voilà l'esclave. L'esclave veut, mais il ne peut pas se vouloir lui-même. Il est trop faible pour se vouloir lui-même. Donc il y a de très beaux textes dans Quel Savoir. C'est le parti politique, c'est le médecin qui a votre psychanalyste, votre médecin qui va vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. On va s'abriter chez le médecin, le psychologue, le psy qui va vous. Le parti politique, la religion, bien entendu, votre curé qui va vous dire, etc. Bon, donc, finalement, l'esclave. À nouveau, c'est toujours très essentiel de le citer, de le signaler, il est heureux d'obéir. Il est heureux de dire « ce n'est pas moi qui avis, j'ai le parti ». Vous vous rendez compte, la valorisation, voilà la présomption. Moi, je ne veux rien, mais je veux la cause du parti. Alors là, c'est ça qui me sauve. Hein, ce n'est pas moi qui veux, c'est le Christ. Ah, ben, je fais avancer le royaume de Dieu. Ça me donne quand même un peu d'importance. Hein, voilà, beaucoup plus que le malheureux Picasso. Donc, il doit éprouver en lui la domination et en jouir. C'est d'ailleurs pourquoi il y tient. Donc, c'est toute une analyse psychologique, n'est-ce pas ? On tient à sa faiblesse. Et donc, on voit très bien dans le cas de Pascal, pour en venir à ce malheureux, la foi commande à sa raison de se nier elle-même dans ses exigences d'intelligibilité. Agenouillez-vous. Et puis ça viendra. Donc faites plier votre volonté et vous allez rentrer dans le mystère du Christ. Bon, c'est une interprétation qu'on peut évidemment contester de ce malheureux Pascal, mais c'est quand même un peu ça. Donc c'est la volonté de plier. Alors j'en viens au deuxième point sur les modalités de cette croyance. Alors je crois qu'il est essentiel de bien distinguer. Alors là nous allons au-delà de notre texte, mais enfin pas tellement. Chez Nietzsche, ce qu'il dit de Jésus et ce qu'il dit de saint Paul. Car il pose une distinction absolument fondamentale et qui est évidemment un point de discussion et même de contestation forte, du christianisme, de Jésus en particulier. Alors, quelle est cette référence à Jésus? Nous l'avons déjà vu un peu dans le paragraphe suivant, paragraphe 60, cet homme qui a pressenti et vécu cela, c'est-à-dire l'amour du prochain, décoré, comment dire, sublimé par l'amour de Dieu. Alors, on pourrait dire qu'en un mot, ce qui est l'essentiel chez Jésus, c'est une praxis. Nietzsche emploie curieusement ce mot, qu'on trouve également chez Marx, mais dans un tout autre sens. Jésus, c'est essentiellement une attitude de vie, une façon de se comporter à l'égard des autres, à l'égard de la vie, à l'égard de soi-même, et à l'égard, de la mort. On pourrait dire que c'est un homme du oui sans condition. Un oui inconditionnel. Et de ce point de vue, il y a quelque chose de noble dans la figure de Jésus. Parce que, d'une certaine façon, il échappe à toute volonté de croyance. Il n'est pas fixé sur lui-même. Alors, je vais lire un petit paragraphe de l'Antichrist. C'est un livre tout à fait contestable. L'Antichrist, un livre posthume que je n'aime pas citer trop parce qu'il est tellement excessif et exagéré que à peu près à toutes les lignes, on a envie de sursauter. Mais enfin, je voudrais citer quand même un peu ce passage. Le mot christianisme, entre guillemets, est un malentendu. Au fond, il n'y a jamais eu qu'un seul chrétien, et celui-là est mort sur la croix. C'est le paragraphe 39, un antichrist. L'évangile, entre guillemets le mot évangile, la bonne nouvelle, est mort sur la croix. Ce qui, depuis lors, s'appelle évangile, entre guillemets, était déjà l'antithèse de ce qu'il a vécu, avec majuscule. Il est devenu une mauvaise nouvelle. Un dus évangile, dus evangelium. Donc, le changement, c'est Jésus a annoncé une bonne nouvelle, je vais revenir là-dessus, et le christianisme, c'est-à-dire saint Paul, annonce une mauvaise nouvelle, dus evangelium.
C'est quel numéro,
s'il vous plaît ? 39.
Merci.
Il est faux jusqu'à l'absurde de voir dans une foi, une croyance, par exemple la foi dans le salut par le Christ, la marque distinctive du chrétien. Seule la pratique chrétienne, la vie comme il l'a vécue, comme l'a vécu celui qui est mort sur la croix, est chrétienne. Aujourd'hui encore, une telle vie est possible, et même pour certains hommes, nécessaire. Le christianisme véritable, originel, sera possible à toutes les époques. Non point une foi, mais un faire. Surtout un, ne pas faire beaucoup de choses, un être différent. Vous voyez, alors ça c'est quand même à souligner, la praxis de Jésus, le christianisme donc authentique, est possible à toutes les époques. Alors qu'est-ce que c'est que ce christianisme de Jésus? Ben écoutez, vous pourriez regarder les textes, ils sont, j'avais déjà fait allusion l'autre jour, c'est assez simple, c'est que Jésus demande à ses disciples de dire oui à ce qui est, de ne pas, je vais peut-être regarder, oui, je vais prendre un texte posthume, parce qu'il y a beaucoup de textes posthumes, c'est donc un texte des années 87-88, donc tout à fait à la fin. Voilà, c'est le 11-269, donc c'est le volume 13, toujours un peu compliqué parce qu'il y a des... C'est le tome 13... des œuvres posthumes, et c'est le 11-269. Bon, si jamais vous voulez y aller voir. Alors, il résume ainsi le message de Jésus. Il le fait parler en un sens. Soyez en paix avec tout le monde, ne considérer personne en tant que rien ou insensé, si la paix est violée, mettez tout en œuvre pour la rétablir. L'adoration de Dieu consiste tout entière dans l'extinction de l'inimitié entre les hommes. Réconciliez-vous à la moindre discussion pour ne pas perdre la paix intérieure, laquelle est la vraie vie. Qu'est-ce qui trouble avant tout la paix ? D'abord la convoitise sexuelle, la contre la monogamie, qui plus est indispensable. La seconde tentation est le serment, il entraîne l'homme dans le péché. Ne prêtez serment à personne, en aucune circonstance, afin de ne pas avoir au-dessus de vous nul autre maître que Dieu. La troisième tentation est la vengeance qui se donne justice. Souffrez les injures, ne rendez pas le mal pour le mal. La quatrième tentation est de distinguer nationaux et étrangers. Ne rompez pas la paix avec quiconque sous le prétexte de votre nationalité, de votre origine. Tous les hommes. Pas plus de juifs que de tous les hommes. Vous êtes frères. La pratique de ces cinq commandements contribue à préparer l'état auquel aspire le cœur humain. Tous frères les uns les autres, chacun en paix avec chacun, chacun jouissant des biens de la terre jusqu'au terme de la vie. Alors, le problème, c'est que quand l'homme... Alors, autre paragraphe, le 270. Donc, c'est la critique que Jésus va faire, mais que Nietzsche prend à son compte. Quand l'homme fait valoir son droit à la vie, et qu'il demande compte au principe de tout, c'est-à-dire à Dieu, dont il tient la vie, et qu'il en demande compte au prince de tout, dont il tient la vie, il ne prouve qu'une chose, c'est qu'il ne comprend pas le sens de la vie. Les hommes, après avoir reçu un bienfait, exigent encore autre chose. Vous voyez, le domestique attend. Les ouvriers de la parabole se tenaient oisifs, malheureux. Le Seigneur leur donne le bonheur suprême de la vie, le travail. Ils acceptent le bienfait. Et ils sont encore mécontents. Ils sont venus avec leur fausse théorie du droit au travail, par conséquent avec l'attente d'une rémunération pour leur travail. Ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu le souverain bien, qu'il leur faut s'en montrer reconnaissant et ne pas exiger un paiement. Matthieu 20, 1, Luc 17, etc. Il continue. Donc, vous voyez, voilà, l'idée c'est... Mais dites oui à la vie, quoi. N'allez pas chercher midi à 14h, ne cherchez pas à être récompensé de ce que vous faites. Vous faites le bien, c'est tout, vous faites le bien. N'attendez pas de récompense, n'attendez pas de... Voilà, donc Jésus a donné une praxis, encore une fois, toujours applicable aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, Jésus a été un des seuls, peut-être avec Socrate, à déjà être un des rares à dire à l'humanité, mais ne vous enfermez pas dans le non qui vous épuise en procès, en souci du lendemain, en bataille les uns avec les autres. Dites oui, même à ceux qui vous font du mal, à vos ennemis. Et donc Jésus apporte un message de vie. Il n'a pas voulu la mort. Voilà le point de grande différence avec Saint Paul. Il n'a pas voulu la mort. Il a voulu que les gens vivent, se réconcilient, soient heureux, jouissent des biens de ce monde, pas trop, mais avec ce qu'il faut. Il n'a jamais voulu la mort. Simplement, c'était un grand naïf. Voilà le revers de la médaille. Et j'ai dit tout à l'heure que Nietzsche le compare quelquefois à l'idiot Dostoïevski, c'est-à-dire qu'à la limite, Jésus croit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je l'ai dit l'autre jour, n'est-ce pas, quand il dit « mais ne faites pas de procès ». Vous croyez que ça va faire plaisir aux magistrats ? Quand vous dites « prévoyez pas pour le lendemain », ça va faire plaisir aux commerçants, à ceux qui... etc. Quand vous dites « mais Dieu est en votre cœur », c'est pas peine de sacrifier des taureaux et d'aller au temple faire des sacrifices. Vous croyez que ça va faire plaisir à la caste sacerdotale qui en vit ? Alors vous mettez à dos par ce message les magistrats qui vivent des procès, vous mettez à dos les commerçants, les négociants qui vivent du commerce, vous mettez à dos les prêts, etc. Vous croyez que ces gens-là vont rester tranquilles ? Mais non, pas du tout. Ils vont se coaliser pour dire, écoutez, éliminons ce type qui fiche la pagaille. Et donc, ils l'ont cloué sur la croix. Mais Jésus n'a jamais voulu ça. Vous voyez, ils ont voulu se débarrasser de Jésus. Voilà le message évangélique selon Nietzsche. C'est assez intéressant comme discours. Évidemment, un peu limité, mais oui.
Enfin, je connais ça,
on pourrait dire simplement aux yeux de Nietzsche, en tout cas, le bouddhisme, c'est quand même le détachement. Or, Jésus, selon Nietzsche, ne propose pas le détachement. Il vous demande d'éviter ce que Heidegger appelle le souci. Oui, mais il vous demande de vivre. Jésus, c'est un message de vie, il vous demande de vivre. Et pas vous mettre sur les bras des procès, le souci du lendemain. Regardez les petits oiseaux, ils vivent. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'ascèse dans le bouddhisme. Encore une fois, aux yeux de Nietzsche, il y a une ascèse. Alors, chez Jésus, vous avez vu ce qu'il dit sur la sexualité, il faut évidemment, il ne dit pas qu'il ne faut pas la monogamie. Mais il faut justement se limiter, mais ce n'est pas une ascèse à proprement parler. Ça sera plutôt avec saint Paul. Je crois que ce sera une des grandes différences avec ce qu'il entend. Évidemment, ça, c'est une construction. Mais quand même, elle est intéressante comme représentation, quand même, de Jésus. Hein. Mais on pourrait dire que c'est. Oui. Mais c'est pas un détachement du monde. Je ne crois pas, non. Alors que pour Nietzsche, le bouddhisme, c'est un détachement. Un peu dans la ligne de Schopenhauer. Là, non, il faut vivre, mais vivre sans se prendre au piège de la vengeance, du quant à soi, vous m'avez fait de la peine, vous allez en baver à votre place, je vais me venger, la loi du talion. Non, 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 il ne faut pas rentrer là-dedans. Considérez les autres comme des frères. Je ne sais pas si je réponds, hein, mais de fait, on peut dire qu'il y a des correspondances. Alors, ce qui va se passer, c'est Saint Paul. Pourquoi Saint Paul? Alors, comme Nietzsche le dit dans le texte que nous avons vu, la religion chrétienne est un phénix, c'est-à-dire qu'elle se renouvelle, elle ressuscite, ce qui est d'ailleurs intéressant aussi. Elle prend des formes nouvelles, donc il ne faudrait pas confondre non plus les formes qu'elle va prendre dans l'histoire. Vous avez vu Luther, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais arrêtons-nous sur Saint Paul. Bon, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici le christianisme primitif. Alors, le christianisme primitif, bien évidemment, ce n'est pas le christianisme de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, ça suppose l'Empire romain, au moins dans notre texte, c'est-à-dire un vaste ensemble de tolérance des diverses croyances, des diverses façons de vivre, à la limite des diverses cultures. Et ce n'est pas totalement faux, l'Empire romain était une immense parenthèse où coexistaient plus ou moins bien ces diverses cultures, avec un certain scepticisme, c'est Nietzsche qui le dit, puisque aucune divinité n'est l'absolu, ben on les accepte toutes. Vous aurez noté qu'il fait allusion ici au catholicisme, et c'est assez intéressant parce que, en parenthèse, Nietzsche, qui est critique à l'égard du christianisme, comme vous voyez, n'est pas si négatif à l'égard du catholicisme, pour plusieurs raisons. J'irai d'abord parce que le catholicisme implique une hiérarchie. Et nous avons vu combien Nietzsche aime la hiérarchie. Tandis que le protestantisme est une populace. Le grand reproche qui est fait à Luther dans le Gai Savoir, c'est qu'il met la Bible entre les mains de tout le monde, qui va mettre ses pattes sales, comme il dit, sur ce texte sacré. L'Église catholique dit « Oh, ouais, touche pas. Nous, on va t'interpréter le texte. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des nobles, les curés, les théologiens qui interprètent le texte. Mais le bon peuple ne va pas coller ses pattes sales et comprendre n'importe quoi. C'est pas totalement idiot, hein, parenthèse. Bon, enfin, bien. Parce que quand on voit ce qu'on veut dire à la Bible. Bon, il y a le côté aristocratique. Et puis alors, il y a le côté. Alors, vous avez vu qu'il avait dit du mal du jésuitisme, mais il y a le côté jésuite, c'est-à-dire un peu sceptique. C'est-à-dire le catholicisme et la grande église qui accepte diverses façons de, plus ou moins païennes, de vivre. Le protestant, c'est. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, un seul chef. Bon, donc par ce côté, le catholicisme romain est un héritier de l'Empire romain. Bon, on peut en discuter, mais c'est quand même amusant de voir ça. Alors, donc il y a d'abord l'Empire, et puis c'est dans cet Empire que Saint Paul va surgir. Alors, quelles sont les grandes idées de Saint Paul selon... Alors d'abord, il faut bien dire que Saint Paul, pour Nietzsche, est parfaitement juif. Jésus, c'est un peu, comme il dit dans un texte, le ciel plombé qui tout d'un coup s'ouvre sur un soleil. Mais avec saint Paul, le ciel nuageux se referme, il n'y a plus de soleil, on reste dans le domaine du péché. Comme vous avez remarqué, c'est chez Jésus, encore une fois, selon la version nietzschéenne, il n'y a pas de péché. Le péché, ça serait justement de se venger, d'avoir le souci du lendemain, il n'y a pas de péché. Saint Paul va prendre en compte le péché, c'est-à-dire qu'il va substituer la croix, la mort, le péché à la vie. C'est-à-dire que Paul reprend le message de Jésus en posant une condition. Oui, vous êtes appelés à la vie éternelle, à la vie en Dieu, à la fraternité, à condition de mourir à vous-même, comme le Christ est mort sur la croix pour vous ouvrir le royaume de Dieu. Par ce petit geste de rien du tout, il transforme la bonne nouvelle en une mauvaise nouvelle. Dus Evangelium. Il faut d'abord convaincre que vous êtes des pécheurs. Parce que si vous ne reconnaissez pas que vous êtes des pécheurs, vous n'aurez pas le salut. Donc, je caricature à peine, mais c'est ça que dit Nietzsche. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'il a totalement tort sur un certain type de prédication chrétienne. Il faut commencer par abaisser celui dont on parle dans son péché, le convaincre qu'il est méchant et mauvais pour pouvoir le sauver de ce pétrin. Donc, la première face de la soi-disant bonne nouvelle, c'est de vous annoncer que vous êtes perdu. Mais pas perdu définitivement, bien entendu, si vous obéissez à la foi, c'est-à-dire si vous rentrez dans la perspective de la mort du Christ, alors vous serez sauvé. Donc ce que Paul met en avant, c'est ce que Nietzsche appelle le Dieu en croix dans notre texte. Le Dieu en croix. Si bien qu'il substitue la mort à la vie. Et, alors nous aurions là, finalement, le thème de la mort de Dieu. Dieu va se trouver identifié à la mort. Puisque pour aller au Dieu de saint Paul, il faut passer par la mort. Alors on va dire, mais comment se fait-il que ce message, donc ça c'est, je dirais, c'est le gros de la théologie paulinienne selon Nietzsche, comment se fait-il que ce message dont Nietzsche nous dit qu'il est absolument insupportable a pu avoir une telle prise dans l'Empire romain? Ah, ben voilà la grande astuce de Paul, car aux yeux de Nietzsche, Paul est très intelligent, comme tout bon juif, il est très intelligent. Il a très bien compris qu'il y avait dans l'Empire romain des tas de gens, à savoir les esclaves, qui étaient tenus pour rien. Et le succès du message paulinien de mauvais évangile va être de dire à ces exclus de la société, à ces gens repoussés, à ces vauriens, à ces ordures, vous êtes les élus de Dieu. C'est vous qui, aux yeux de Dieu, êtes les nobles. C'est vous qui êtes aimés de Dieu. Pas ces grossiers personnages que sont les riches, les puissants, ceux qui dominent. C'est vous qui êtes les élus. D'où la révolte des esclaves. On dit aux esclaves, c'est vous, n'est-ce pas, qui êtes les bien-aimés de Dieu. Alors, en faisant ça, vous voyez que saint Paul honore la bassesse du monde et relativise la noblesse, les valeurs de noblesse, les valeurs aristocratiques, du respect de soi, du courage, etc. C'est vous, les faibles, les pauvres, les incapables, les imbéciles, etc. Hein, comme dit saint Paul quand il parle au Coran, regardez-vous, regardez l'assemblée que vous êtes. Hein. Il y a beaucoup de malins là-dedans, beaucoup de prix Nobel. Vous êtes tous des pauvres types. Mais c'est ça que tu as élu. Donc c'est vous les véritables nobles aux yeux de Dieu. Alors évidemment, ce message a un succès considérable parce qu'il a une portée religieuse, Dieu aime les faibles et les élit, et une portée politique évidente, puisque les véritables nobles, les véritables seigneurs, ce sont les esclaves et non pas les autres. Alors on pourrait dire, voilà le christianisme paulinien, et qui implique l'ascèse, le sacrifice de soi, puisque effectivement il faut lutter contre ses passions pour rentrer dans la vraie vie, dans la vie selon Dieu. L'esclave doit donc lutter contre lui-même, mais il le fait parce qu'il sait qu'il est élu de Dieu. Et donc il y a sacrifice de soi, et par conséquent, soumission de l'esclave à une parole, c'est-à-dire à la parole de Dieu, à l'Église, qui lui donne précisément sa valeur. Donc l'esclave se comprend comme étant au-dessus de la noblesse, au-dessus de ces malheureux qui se croient plus forts et qui sont en réalité ennemis de Dieu, les nobles qui se croient. Donc on dévalorise toutes les valeurs les plus hautes. Voilà, c'est ça que fait le christianisme paulien. C'est que les vraies valeurs sont celles de la faiblesse, de l'humilité, de l'oubli de soi, etc. C'est ça le renversement des valeurs. Le renversement des valeurs, c'est celui des esclaves. Alors, un mot sur Luther, un mot sur la Révolution française. Le grand reproche que fait Nietzsche à Luther, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est qu'il va se révolter contre la noblesse ecclésiastique, d'une certaine façon, en proclamant dans sa fameuse lettre aux princes chrétiens, nous sommes tous papes, tous évêques, tous prêtres. Donc il n'y a plus d'hierarchie. Ça, c'est magnifique. Donc tous les paysans disent, oh, ben, c'est merveilleux, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous le pape, nous sommes tous évêques, tous égaux, tous accès à la Bible. Donc là, il n'y a plus d'hierarchie. Mais du coup, le malheureux, en croyant retrouver l'évangile premier, il ne voit pas qu'il est un destructeur et qu'il va ficher la pagaille dans toute l'Europe. Ça, c'est le grand reproche qui est fait dans la... Par exemple, la révolte des paysans, parce que les paysans disent « Ah bon, ben alors c'est nous qui sommes les élus de Dieu, ben alors on prend les propriétés des châtelains, etc., on se les approprie. » Et alors le brave Luther recule, n'est-ce pas, la fameuse révolte des paysans, 1523, quelque chose comme ça. Il recule, « Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah oui, mais c'est quand même ce que vous avez dit. » Bon, alors, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de... etc. Donc, c'est ce qu'il appelle du plébéianisme de l'esprit. Luther, c'est le plébéien de l'esprit. Le paysan balourd qui ne voit pas les conséquences de ses actes. Ça, c'est le grand reproche. Et sous prétexte de revenir à l'évangile pur, il a mis l'Europe à feu et à sang. On peut dire que c'est excessif, que c'est pas le vrai Luther, tout à fait, mais c'est quand même ce que Nietzsche dit. Et il était quand même luthérien, n'oublions pas. Bon. Donc, il a mis la pagaille partout. Et il a... bon. Alors, la Révolution française, évidemment, on enjambe beaucoup. Ben, on pourrait dire que d'une certaine façon... Alors, il ne dit pas que c'est un résultat du protestantisme, mais c'est la même révolte des esclaves contre la noblesse. Mais pas seulement au sens sociologique ou historique du terme, où tout d'un coup, la plèbe, parce que c'est plutôt les bourgeois... La plèbe se dresserait contre l'aristocratie des campagnes ou de Versailles. C'est les valeurs de servitude qui prennent le dessus sur les valeurs de noblesse. Vous avez vu dans le petit texte que j'ai lu, le droit au travail. J'ai des droits. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez des droits? Vous n'avez pas de droits. De droits par rapport à qui? C'est les autres, donc, qui ont des devoirs envers vous? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous acceptez dépendant, vous vous dites esclave des autres. Alors, on pourrait dire que la Révolution française, aux yeux de Nietzsche, c'est la continuation de la révolte des esclaves, c'est-à-dire du renversement des valeurs antiques, c'est-à-dire des valeurs de noblesse. Et c'est pourquoi il est si sévère à l'égard de la démocratie moderne, qui est le règne de l'égalité, on pourrait dire de l'égalitarisme. Et sa critique, finalement, aussi, des droits de l'homme, c'est-à-dire des privilèges dont je peux me prévaloir à l'égard des autres. Or, si vous voyez bien le message de Dieu, je n'ai pas de privilèges. Je reçois la vie en abondance, ben, très bien, j'en rends grâce. Je suis heureux avec ça, puis je n'ai pas de revendication à l'égard de personne. Or, la Révolution française, c'est la promotion de la revendication de l'individu à l'égard de tout autre individu. Donc, on voit tout de suite qu'aux yeux de Nietzsche, ça ne peut que déboucher sur des sociétés de l'insatisfaction, de la société du trouble, de la société, finalement, de l'anarchie. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que par certains côtés, ce discours de Nietzsche n'est pas éloigné de celui d'Alexis de Tocqueville. Parce que Alexis de Tocqueville, qui évidemment ne se connaissent pas mutuellement, bien entendu, Nietzsche ne connaît pas Tocqueville, c'est sûr, mais Tocqueville, je crois, ne connaît pas Nietzsche non plus. Mais c'est un peu le même type d'analyse, n'est-ce pas, quand Tocqueville dit la démocratie est en train de, lui qui est un aristocrate, de prendre le pas, les valeurs démocratiques sont en train de prendre le pas sur les valeurs aristocratiques, et si ces valeurs démocratiques arrivaient à une domination totale, la société entière verserait dans ce qu'il appelle, accepterait un despotisme doux. Parce que chacun étant à ses propres affaires, revendiquant ses droits, serait tout à fait heureux d'être sous le parapluie d'un pouvoir absolu qui lui permettrait de vivre tranquille. C'est ce que Nietzsche dit de l'État moderne, qui est le monstre froid, le plus froid de tous les monstres froids. Ça, c'est la grande angoisse de Tocqueville. C'est-à-dire, il est pour la démocratie, dit Tocqueville. Certainement, à la différence de Nietzsche. Mais si on ne garde pas un peu de valeur aristocratique, la démocratie va se ruiner elle-même. Voilà. Ça, c'est le grand thème, à la fois nietzschéen et tocquevillien. La démocratie risque de se dévorer elle-même. Comme l'esclave, qui est toujours en état de revendication. J'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits. Donc avec ça, vous ruinez les choses. Voilà. Alors, je pourrais terminer là-dessus, simplement en revenant au paragraphe 53. Pourquoi l'athéisme aujourd'hui? Non pas pourquoi être athée, mais pourquoi l'athéisme aujourd'hui? En Dieu, le Père, entre guillemets, a été radicalement réfuté, et non moins le juge, le rémunérateur. On ne peut plus croire à un Dieu provident. Attention, on ne croit plus aux attributs chrétiens de Dieu. On ne croit plus, les athées ne croient plus en une paternité de Dieu, en un Dieu juge à la fin du monde, jugement dernier, on va trier les bons des mauvais, rémunérateur qui va vous récompenser pour vos bonnes actions. Et aussi son vouloir libre. Il n'écoute pas, et s'il écoutait, il ne pourrait quand même pas venir en aide. Donc, est-ce que Dieu intervient dans nos affaires? Non, l'histoire, c'est ce qu'elle est, un chaos, bon. Le pire est ceci, qu'il semble incapable de se communiquer clairement. Manque-t-il de clarté? Là, à nouveau, à lire avec un peu d'humour. Voilà les causes que j'ai découvertes. Bon, je peux me tromper, sous-entendu. Au déclin du théisme en Europe, au cours de nombreuses conversations où j'ai questionné et prêté l'oreille tour à tour. Donc, il rapporte ici des propos. Ce n'est pas absolument tout à fait sa position. Il me semble que l'instinct religieux connaît un vigoureux essor, mais qu'il repousse avec une profonde méfiance les apaisements du théisme. Alors, je voudrais ajouter un autre point en terminant ce propos. C'est qu'on voit très bien qu'aux yeux de Nietzsche, le christianisme est devenu incroyable. En deux mots, pourquoi? Il est devenu incroyable parce qu'il s'est infligé à lui-même sa propre euthanasie. C'est le mot qu'il emploie. Il s'est donné la mort lui-même. On pourrait déboucher sur le thème de la mort de Dieu. Pourquoi s'est-il donné la mort lui-même? C'est à nouveau à cause de saint Paul. Parce que saint Paul a demandé aux chrétiens paulinien, d'être un homme de rigueur morale. Donc d'être un homme d'ascèse, un homme qui répond à la volonté de Dieu et qui la cherche sur lui-même. Donc le christianisme, par la morale paulinienne, nous l'avons déjà rencontré, a éduqué l'européen. Il l'a éduqué à ce qu'il appelle, dans le Gai Savoir, la probité intellectuelle. Et Nietzsche donne une importance tout à fait considérable au confessionnal. Parce que dans le confessionnal, le chrétien est obligé d'apprécier au plus près sa propre vie. Combien de fois, mon bon ami, avez-vous menti? Combien de fois, mon enfant, avez-vous mis les doigts dans la confiture? 4, 10, 20? Ne me racontez pas d'histoire. Donc, vous éduquez le chrétien à dire, voilà, j'ai commis une fois l'adultère, j'ai été 3 fois voleur, Vous l'habituez à l'acribie intellectuelle. Et Nietzsche dit, avec Mélisse, que la science moderne est sortie du tribunal, du confessionnal. Paragraphe 346, je crois, du Gai Savoir. Parce qu'à force de s'examiner lui-même, l'homme européen finit par examiner le ciel, son propre corps, la circulation sanguine. Il s'interroge sur la marche des planètes, etc. Voilà la science, elle sort du confessionnal. Seulement, en même temps, ça n'est pas sans conséquence, parce que le chrétien va se retourner vers ce que saint Paul lui a dit. C'est-à-dire, la morale va se dresser contre le dogme. Ça, c'est une formule paulinienne. La morale va se dresser vers le dogme. À force d'habituer le croyant à la rigueur intellectuelle, morale d'abord, il en vient un jour à s'interroger sur les dogmes de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, mort en croix? Pourquoi faut-il passer par la mort pour avoir la vie? Et d'une certaine façon, ce christianisme-là aboutit à la critique du dogme et à découvrir que cette idée de providence, cette idée de paternité, un Dieu qui juge, ça ne tient pas la route. Donc, c'est le christianisme qui, par sa morale, se détruit lui-même comme dogme. 357 du Gai Savoir. Très grand texte. 357 du Gai Savoir. Il s'auto-détruit. Alors, à nouveau, c'est très important. Nietzsche ne dira jamais si le christianisme faiblit, c'est à cause de, je sais pas quoi, moi, de Galilée, des critiques qu'il a subies, de Renan, de Voltaire. Aux yeux de Nietzsche, des imbéciles. Mais non, c'est du dedans qu'il s'est auto-détruit. C'est une autre affaire. Donc, c'est pas Nietzsche lui-même. La mort de Dieu, c'est pas Nietzsche lui-même. Jamais il dit, c'est moi qui ai tué Dieu. Nous avons tué Dieu. 105 du Gai Savoir. Nous. Nous, Européens formés par le christianisme, nous sommes retournés contre Dieu. Nous disons, c'est devenu incroyable. Donc c'est du dedans que la foi chrétienne s'est éteinte. Du dedans du christianisme paulinien. Et nous retrouvons en effet la possibilité de la praxis de Jésus. Mais ni la morale ascétique de Paul, ni les dogmes auxquels on ne peut plus rentrer. Donc, l'athéisme moderne, aux yeux de Nietzsche, est un des fruits du christianisme. Je crois qu'il est très important d'entendre ça. D'un certain christianisme. Ce christianisme, qu'il appelle paulinien, qui commence par confondre l'homme avant de l'exalter. Bienheureuse faute qui nous vaut un tel salut. Le péché. Donc il faut commencer par confesser qu'on est des salauds pour avoir le salut. Mauvaise nouvelle. Hein. La bonne nouvelle commence par mauvaise nouvelle. Le curé commence par dire, vous êtes tous des salauds, vous avez déjà péché, vous êtes des... Hein. Et puis après, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Bon, j'espère que vous ne ferez pas de cauchemar là-dessus. Alors, la prochaine fois, nous regarderons, j'ai déjà donné les textes, 46, 201, 262 et 195. Oui.
Il y a bien des passages dans l'Évangile où Jésus renverse aussi la hiérarchie. Pour mettre au centre l'homme, pour le guérir.
Ah oui, mais Jésus ne croit pas aux hiérarchies, il les démolit. C'est bien pourquoi elles vont se crisper contre lui. Ah, ben, de ce point de vue-là, non, il ne veut pas être, il Non, il admire Jésus, mais en même temps, il le critique fortement, puisqu'il n'a pas vu le nom. Il n'a pas vu l'importance de la hiérarchie. Non, vous avez raison, hein, ça, il ne faut pas... Nietzsche admire à la fois Jésus, mais bien entendu ne s'identifie pas au message de Jésus. Ça, tout à fait. Alors, bien entendu, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que je crois que plus personne ne tient à cette opposition frontale entre le message de Jésus et saint Paul. Ça, c'est sûr que là, Nietzsche hérite de la tradition protestante libérale, d'un certain romantisme, d'un Jésus à la Tolstoï, qui est une espèce de d'être évanescent, qui passe au travers des gouttes sans même voir qu'il pleut. Enfin, vous voyez, c'est une espèce d'illuminé. Il y a un peu de ça, quand même. C'est le Jésus, il faut s'entendre avec tout le monde, il faut... Vous voyez, donc c'est un peu ça. Bon, quel est l'exégète aujourd'hui qui ferait un tel portrait de Jésus, ou cinéaste, Pasolini et tout ça, qui admire Jésus, ne traîne enfin, pas tout à fait, mais ça traîne toujours. En tout cas, l'opposition Jésus-Saint-Paul ou Jésus-Église, ça, alors c'est increvable, bien entendu. Donc je ne dis pas qu'il faut prendre ça pour agent comptant, hein, c'est typique de Nietzsche, bien entendu. Mais ça, normalement, je crois, le chrétien et le philosophe se trouvent instruits aussi par là, sur les dangers de cette exaltation de la mort, du péché, que Nietzsche attribue à Paul, et qu'on pourrait peut-être trouver aussi chez Augustin. Oui.
Alors il n'a pas vu ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, que la loi ne sauve pas, la loi est...
La loi ne sauve pas, c'est Jésus qui vous sauve. C'est la croix du Christ qui vous sauve. C'est la croix du Christ qui vous sauve, c'est pas la loi, ça, bien entendu. Oui.
Non, Nietzsche n'a pas du tout vu cette astuce des choses. Parce que ça me paraît pas du tout moralisateur, pas du tout moral.
Saint Paul. Ben, quand même, chez Saint Paul, j'ai pas trouvé que c'est... parce que quand il vous dit, par exemple, dans Romains 2, 14... la Torah se trouve chez le païen dans sa conscience, c'est la conscience du païen qui porte le poids de la Torah, puisqu'il s'ajoute en même temps que Dieu va juger sur la conscience. Donc, ah ben oui, mais ça donne un poids quand même assez considérable à la conscience de ce malheureux païen. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans les Épîtres aux Romains, sera jugé sur sa conscience. Non, je crois, saint Paul, et Nietzsche ne dit pas que saint Paul attend le salut de la loi, au contraire, il dit à la place de la loi... C'est la foi dans le Christ mort et ressuscité.
Il était très marqué par le jansénisme.
Pas le protestantisme, qui était une forme de jansénisme. Oui. Ah oui, oui, certainement. Oui. Ah ben, il ne faut jamais oublier quand même qu'il est protestant jusqu'à la racine. Hein. Ça, c'est absolument évident. Oui, oui. Voilà, donc on se retrouve jeudi prochain pour la... Si vous avez des questions, évidemment, préparez-les en relisant ces textes. Ah, et alors ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?